Nous sommes à l'avant-dernière conférence alors sur le modernisme. On commence la postface peut-être, on termine la première partie. Nous allons voir ce soir que le modernisme effectivement est monstrueux, ou que c'est un monstre. Je prends le terme monstre dans le sens, nous le verrons un peu plus loin, où saint Thomas l'utilise en commentant Aristote, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il s'agit donc de ramasser en quelque sorte ce que nous avons vu donc depuis le début de l'année sur le modernisme en essayant de mettre le point ou le doigt sur l'erreur finalement fondamentale qui sujette toute la théorie. Pour ça, il faut retracer en quelque sorte rapidement les conclusions qu'on avait abordées dans les conférences précédentes. Et je recommencerai donc, allons assez vite, puisque le but c'est d'arriver à montrer qu'il est monstrueux, par la précédente, immédiatement prochaine, nous avons vue. Le modernisme, disait-on, n'a ni père ni mère, c'est-à-dire qu'il renie finalement et la tradition et l'Église. Nous avons vu effectivement que le modernisme entend par tradition une communication d'expérience, et c'était là donc le terme important, c'était justement cette expérience transmise, voilà pourquoi il parlait de tradition, communiquée, avec des formules ou des mots qui avaient par eux-mêmes une vertu, disait Saint-Pélice, suggestive, qui faisait résonner en quelque sorte les cordes sensibles de chacun. Et alors à ce propos, Saint-Pélice avait fustigé la notion d'autorité des modernistes. L'autorité n'était plus simplement que celle qui devait assurer en quelque sorte eh bien, une évolution homogène de ces expériences dans la ligne de leur germe initial. L'autorité, c'était simplement donc la récapitulation, si on veut, des consciences individuelles. Voilà donc le rejet de ce que c'est que la tradition par les modernistes. Le modernisme n'a pas non plus de mère, car il n'a pas non plus d'église. Qu'est-ce que c'était que l'église? Saint-Pélice l'avait précisé. L'église, c'est le fruit, disait Saint-Pélice de façon précise, de la conscience collective. Donc il s'agit ici encore, comme dans la tradition, de conscience, c'est-à-dire de faits ici ramenés à des faits sensibles. L'Église n'est pas une société telle que nous la comprenons et la croyons, c'est une récapitulation en quelque sorte encore, ou bien une collection, ça serait mieux, parce qu'elle manque d'unité, parce qu'elle manque de hiérarchie, une collection des consciences individuelles. Et nous avions vu alors que parce que l'Église moderniste, qui est une conscience collective, ou plutôt le fruit d'une conscience collective, est une collection, elle a encore, si on veut, une autorité. Mais cette autorité, nous l'avons vu, c'est alors pris comme la conscience collective faisant comme un tout. On voit la conscience collective comme un tout, on ne sait pas qui décide, un peu comme les conférences épiscopales aujourd'hui. Qui décide, on ne sait pas, c'est la conférence à décider que... L'Église moderniste a encore, dit-elle, un magistère, c'était l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que ce magistère? C'est encore donné par l'autorité, c'est justement eh bien, l'intelligence commune. Donc c'est une espèce d'intelligence qui plane au-dessus de chacune des intelligences individuelles. Et nous voyons que le magistère, c'était simplement que le service public subordonné donc aux formules populaires. Enfin, nous avons vu que l'Église moderniste prétendait encore garder un culte. Pourquoi? Eh bien, ce culte était encore un culte parce qu'exprimant le besoin de la conscience individuelle comme vie, propagation en quelque sorte de la religion dont chacun a besoin. Et donc le culte moderniste doit par essence s'adapter au contenu et aux traditions populaires. Donc le moderniste n'a ni père ni mère, et s'il y a tradition et église encore, s'ils emploient les mots, c'est toujours dans le sens donc d'expérience, de collection d'expériences, donc de faits sensibles éprouvés par chacun et mis en commun. Voilà le caractère important que Saint-Pédis manifestait, donc, que je vais essayer d'expliquer la dernière fois. L'avant-dernière fois, nous voyons que le moderniste n'avait ni foi ni loi, c'est-à-dire ni religion ni dogme. Alors le modernisme n'a pas de foi, nous l'avions vu aussi. Qu'est-ce que c'était que la foi pour le moderniste? C'est un sentiment, Donc c'est pas du tout une adhésion intellectuelle, c'est un sentiment qui répondait aux besoins intrinsèques, individuels, donc qui émanent de la subconscience. La foi est donc encore un fait de conscience, ici pris pour sensible, conscience individuelle, et on y répond par ce sentiment individuel. Donc c'est encore un fait sensible. Et appuyé, une fois de plus, comme la tradition, comme l'Église, sur la conscience de chacun. Il n'y a pas d'unité. La foi ne peut pas prétendre avoir une unité en tant que telle, puisque c'est finalement la réaction individuelle de chacun à un besoin du divin intrinsèque à chaque individu. D'autre part, le modernisme n'a pas non plus de dogme, il était sans loi, c'est ce que j'avais ainsi dénommé. Pourquoi ? Eh bien, parce que le dogme, pour eux, c'est l'expression du sentiment, justement, qu'était cette foi. Ce sentiment était formulé, nous l'avons vu, comme un symbole du subconscient individuel et comme instrument pour l'individu qui se dit, justement, ce subconscient qu'il commence à apprécier. Donc, le dogme, eh bien, est essentiellement variable. Et encore une fois, il est individuel. Donc, il est variable, sensible, individuel. Il est même infiniment variable, nous l'avions vu aussi, puisque le sentiment ou le dogme, ça revient au même, comme symbole, eh bien, il doit, en quelque sorte, transmettre ou dire les aspects infiniment divers que le croyant peut éprouver de ses divers sentiments, et il est aussi infiniment variable car les états même du croyant sont infiniment divers par rapport à ce subconscient senti. Donc, le dogme, comme la tradition, comme l'Église, comme la foi, est individuel et essentiellement variable. Le dogme, disait saint Pélisse, n'existe qu'en tant que vécu, car sinon, il tombe, il est être mort, et ça veut dire qu'il ne transmet pas une religion qui, en tant que telle, est un phénomène de vie. Voilà donc pourquoi le moderniste n'avait ni foi ni loi, c'est-à-dire ni religion ni dogme. Et puis, la deuxième fois, la deuxième conférence, nous avions vu que le moderniste n'a ni science ni conscience. Il n'a ni science, pourquoi ? Parce que saint Pélisse expliquait que le modernisme est fondé sur une philosophie qui s'appelle l'agnosticisme, qui dit que la raison est enfermée dans les phénomènes et donc incapable de connaître la réalité. Elle est enfermée dans ce qui m'apparaît à moi individuellement, en tant que ça m'apparaît. Donc on retrouve encore ici une caractéristique, c'est que la science moderniste, ou plutôt l'absence de science moderniste, vient du fait que la connaissance est sensible et individuelle, et donc essentiellement variable. Le deuxième facteur que Saint-Pélisse expliquait, montrant qu'il n'avait pas de science, c'était ce qu'il avait appelé l'immanence vitale. La religion, on l'observe, c'est constatable, c'est-à-dire que c'est un fait sensible, constatable. Comme tout fait sensible, elle est observable. Comme tout fait observable, elle demande une explication. Eh bien, cette explication, c'est ce que Saint-Pélisse caractérisait comme une forme de vie. Voilà donc ce que c'est que la science, si on veut, ou le fondement du modernisme. C'est cette espèce de vie de l'homme qu'il essaye d'expliquer. Mais attention, cette vie est en fait un phénomène vital, donc quelque chose de sensible, d'individuel. Voilà ce que précisait Saint-Pélisse dans la première d'ailleurs conférence que nous faisions. Et nous voyons enfin que le modernisme n'a pas de conscience, parce que, en tant que modernisme, eh bien, la racine, finalement, de sa connaissance du divin, elle n'est pas consciente, elle est sous la conscience, elle est subconsciente, mais elle émerge, pourquoi ? Eh bien, par une nécessité de besoin, en quelque sorte, qui fait que l'homme vit. La vie elle-même, en quelque sorte, réclame qu'émerge de la subconscience ce divin qui est enfoui en l'homme et qu'il ne connaît que lorsqu'il le sent. En conséquence, si on récapitule tout ce que nous avions vu, on constate, d'après les termes même de Saint-Pédice, que aussi bien la science que la foi, que le dogme, que la tradition, que l'Église moderniste est toujours fondée sur quelque chose de sensible et d'individuel. Il n'y a rien, donc, d'ontologique, si on veut, on n'atteint pas la réalité des choses, Il n'y a pas d'adhésion intellectuelle à une vérité qui puisse être partagée par d'autres. Il n'y a pas d'unité au sens propre. Il n'y a que collection, donc, de plusieurs membres, individus, plusieurs formules qu'on met ensemble, mais qui gardent donc leur diversité. Le modernisme est incapable de faire l'unité. Quel est alors, fondé sur ces trois premières conférences, quel est finalement le point crucial, quel est le fondement ultime de la théorie moderniste? Eh bien, Saint-Pédis va le préciser alors dans de nombreux passages de son encyclique que je vais cette fois-ci vous donner de façon explicite. D'abord, dans le numéro 32, Saint-Pédis, en quelque sorte, dévoile ce qu'il avait laissé peut-être comme sous-jacent, mais qui était déjà manifeste pourtant, dans tout le début de l'encyclique, c'est le passage sur l'évolution. Et voilà le problème. Le moderniste, dit Saint-Pédis, pose comme principe général que dans une religion vivante, il n'y a rien qui ne soit variable, rien qui ne doive varier. D'où il passe à ce qu'on peut regarder comme le point capital de leur système, savoir l'évolution. Et on comprend, c'est conséquent à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est relatif effectivement à chacun, à chaque état de conscience, à chaque sentiment que l'on peut éprouver. Donc c'est sans arrêt en train de varier. Et puisque la religion est une forme de vie, en tant que forme de vie, elle ne peut pas ne pas varier. Voilà pourquoi Saint-Pédis dit à juste titre que le point capital, le principe au sens propre, général, sur lequel s'appuie le modernisme, c'est l'évolution. Alors il va le préciser, il va dire qu'il s'agit d'évolution au niveau de la foi, évolution au niveau de l'Église, évolution au niveau du dogme, évolution au niveau du culte, évolution au niveau des livres saints, bref, tout est évolutif. Et le modernisme n'est qu'évolution. Dès qu'il n'y a plus d'évolution, il y a, pour le modernisme, mort, donc plus de religion. Voilà ce qu'il précise ensuite dans ses paragraphes 33 et suivants. Alors dans le paragraphe 38, Saint-Pédis insiste pour y montrer l'importance de ce principe général. Il précise effectivement que cette évolution est la doctrine même du modernisme et que par doctrine, il est en quelque sorte un doctrinaire, le moderniste, un doctrinaire de l'évolution, par doctrine, rien n'est stable et rien ne peut être immuable. Il ne peut pas y avoir dans le modernisme de stabilité, d'immuabilité, dans aucun domaine. L'Église, le dogme, la tradition, le culte, etc. Rien n'est stable, rien n'immuable. Ils ont eu des précurseurs, nous dit Saint-Pédis, ceux dont Pie IX, notre prédécesseur, écrivait « Ces ennemis de la révélation divine exaltent le progrès humain et prétendent, avec une témérité et une audace vraiment sacrilège, l'introduire dans la religion catholique. Comme si cette religion n'était pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre des hommes, une invention philosophique quelconque, susceptible de perfectionnements humains. » Donc c'est ça, c'est Pie IX dans Qui Pluribus, donc une encyclique d'une 1846. Donc Saint-Pédis montre bien que le modernisme, qui est justement par essence évolutif, ou déstabilisant si on veut, ou mutable, est contraire à l'enseignement des papes, il cite en particulier Pie IX, et il dit ça c'est une invention humaine, c'est pas divin, parce que Dieu est Dieu justement, et Dieu ne change pas, comme même elle le répétait l'Écriture. Voilà pourquoi, on va le voir, le modernisme est un monstre. Alors si tout est évolutif, si rien n'est stable, si rien n'est immuable, eh bien, l'histoire en particulier, ou la science ecclésiastique, l'histoire de l'Église, seront elles aussi évolutives. Qu'est-ce que ça veut dire que l'histoire ou la science ecclésiastique, ou théologique même, sont évolutives? Ça veut dire qu'elles ne prétendent pas arriver à une réalité fixe et stable. C'est dire qu'elles sont donc une explication peut-être, ou plutôt une manifestation, eh bien, de divers événements constatés. Ces événements, on les appelle des phénomènes. C'est-à-dire que l'histoire, comme la science, en fait, ne roule que sur des phénomènes, des apparences, ce qui apparaît, sans jamais prétendre atteindre à la vérité, à la réalité, qui, en quelque sorte, est à déceler sous l'apparence, sous le phénomène. Voilà ce que Saint-Pédis précise dans le numéro 38. Il y revient encore. Et il va plus loin, en quelque sorte. Il fait comme revenir au point de départ de son encyclique, c'est dans le paragraphe 43. Le principe On vient de le voir, le principe fondamental, le principe général, c'est l'évolution. Le principe qui le dirigera dans cette opération lui sera fourni une fois de plus par le philosophe. Voilà pourquoi le modernisme est au départ une erreur philosophique. Et Saint-Pie le précise. Quel est le point de départ? Quel est le fondement de ce principe général qui est l'évolution en modernisme? C'est un principe philosophique. C'est le philosophe qui va donner, en quelque sorte, le point de départ à la religion moderniste. Et c'est pourquoi Saint-Pélice dit à juste titre, en prenant la citation de Pie IX, que cette religion moderniste n'est pas du tout une religion divine, c'est une invention des hommes. C'est l'invention d'un philosophe. Cette philosophie est passée, en quelque sorte, a été introduite dans l'Église. Donc l'Église moderniste, si jamais elle existait, l'Église moderniste vivrait non plus de vérités éternelles données par Dieu, elle vivrait non plus de vérité, mais elle vivrait de discours, en quelque sorte, donnés par des hommes, des philosophes, qui auraient pour principe ou pour philosophie, eh bien, l'évolution, la loi du devenir. Alors ce principe qu'est la loi du devenir, cette loi qui domine en quelque sorte tout la vie moderniste, toute l'Église moderniste, va imprégner tous les domaines. Et Saint-Pélice le précise. C'est toujours le paragraphe 43. D'après le philosophe, une loi domine et régit l'histoire. C'est l'évolution. À l'historien donc de scruter à nouveau les documents, d'y rechercher attentivement les conjonctures ou conditions que l'Église a traversées au cours de sa vie, d'évaluer sa force conservatrice, les nécessités intérieures et extérieures qui l'ont stimulé au progrès, les obstacles qui ont essayé de lui barrer la route. En un mot, tout ce qui peut renseigner sur la manière dont se sont appliquées en elle les lois de l'évolution. Voilà, en quelque sorte, comment va vivre l'Église. Arriver à scruter, discerner, eh bien, l'évolution qui continue. Et la perfectionner, donc en discernant dans le passé ce qui a servi à les faire évoluer, et puis en essayant de l'appliquer, alors, en fonction des circonstances, justement, pour l'avenir. L'Église vit de l'évolution. L'Église est une évolution. Ça s'applique à tout. Alors, on voit ça aujourd'hui de façon pratique. Il n'y a qu'à lire n'importe quel journal, la Documentation catholique, l'Observatore Romano, qui parle effectivement de cette façon-là. En particulier en Écriture sainte, Saint-Pélice l'avait déjà dit, dans le paragraphe 44... Les livres sacrés, l'Écriture elle-même, sur lesquels s'appuie justement notre foi, puisque c'est la révélation, c'est Dieu qui se communique aux hommes. Eh bien, les livres sacrés seront eux aussi, en quelque sorte, à étudier pour y discerner cette évolution vitale. Alors, Saint-Pélice explique ça bien dans le paragraphe 44. Il y a à reconnaître, dit-il, dans les livres sacrés, une évolution vitale. Donc même l'Écriture, toute la Bible, n'est qu'en fait une histoire d'une évolution. Il s'agit de la comprendre pour aller plus loin. C'est donc dire que la révélation n'est pas achevée avec la mort d'un des apôtres. Elle est commencée, mais elle n'est pas finie. Parce que l'Écriture, c'est un début. C'est le début, en quelque sorte, manifesté d'une évolution qui a commencé il y a bien longtemps, puisqu'on ne sait même pas quand. Donc évolution vitale, parallèle, dit Saint-Pélice pour les livres sacrés, est même conséquente à l'évolution de la foi. Ça va ensemble. La foi s'appuie, si on veut, sur les livres sacrés, mais on a vu dans quel sens pour les modernistes. C'est parce que les livres sacrés, en quelque sorte, transmettent eux aussi la façon de réagir à des mots qui ont une vertu suggestive. Eh bien, les livres sacrés vont, comme la foi, dans le sens d'une évolution. On pourrait même dire qu'on va continuer à écrire l'histoire telle qu'elle a déjà été commencée par... quelques auteurs, ce qu'on appelle les prophètes, comme ils appellent, ou les évangélistes. Il faut poursuivre. La révélation n'est pas achevée. L'évolution continue. Alors, Saint-Pélice continue, il applique ça à d'autres domaines, et il insiste, dans le paragraphe 45, qui est comme la conclusion, en quelque sorte, en tout cas pour nous, pour ce soir, pour démarrer, il nous semble, donc, dit-il, avoir exposé assez clairement la méthode, donc du modernisme, qui est une méthode historique, c'est-à-dire à discerner dans toute chose, l'évolution. Et Saint-Pélice précise bien quel est le point de départ et le point d'arrivée. Le philosophe ouvre la marche. Voilà comment ça se passe. Donc c'est le philosophe qui, en quelque sorte, donne l'idée, permet de dire comment il faudrait, en quelque sorte, agir, ou ce qu'il faut penser. Donc le philosophe ouvre la marche. C'est lui qui va entraîner tous les autres. Qui est-ce qui suit le philosophe, nous dit Saint-Pélice, c'est l'historien. Donc l'historien prend le pas sur le philosophe. Le philosophe va donner en quelque sorte le germe initial à la philosophie moderniste et donc à la religion moderniste, et lui embraye le pas l'historien. L'historien qui va développer finalement ses idées mises en germe par le philosophe. Puis par ordre, la critique, donc interne, la critique textuelle, donc toute l'exégèse va prendre le pas sur l'historien. Alors on voit ça aujourd'hui. La critique textuelle aujourd'hui n'a plus rien à voir, l'exégèse n'a plus rien à voir finalement avec celle qu'on avait pu entreprendre jusqu'à Pie XII. Mais Saint-Pie insiste, comme le propre de la cause première, c'est-à-dire celui qui ouvre la marche, est de laisser sa vertu dans tout ce qui suit, il est de toute évidence que nous ne sommes pas ici en face d'une critique quelconque, mais bien agnostique, immanentiste, évolutionniste. Vous voyez qu'on retrouve le point de départ. Il avait dit finalement sur quoi s'appuie le modernisme. Il avait commencé par la philosophie en disant que c'était d'abord un agnosticisme, refus de l'intelligence de connaître la vérité. Immanence vitale, tout vient du sujet lui-même et donc individuel. Il termine ici en disant, eh bien ça conduit à l'évolutionnisme. En fait, cet évolutionnisme, c'est l'idée en quelque sorte de départ donnée par le philosophe et qu'il a introduite dans l'Église. Alors l'Église, ce n'est pas une société qui existe en soi, ce sont des sujets qui la composent, nous avons vu ça la dernière fois. C'est donc dire que l'idée, alors fausse bien sûr, donnée par le philosophe, donc un homme du monde, eh bien va en quelque sorte pénétrer les intelligences des hommes d'Église. Et les hommes d'Église vont devenir convaincus à leur tour de cette idée philosophique d'évolutionnisme. Voilà pourquoi quiconque l'embrasse, donc cet évolutionniste, et l'emploie, fait profession par là même d'accepter les erreurs qui sont impliquées et se met en opposition avec la foi catholique. Une fois, en quelque sorte, que cette idée a germé dans un membre de l'Église, cette idée d'évolution, il finira par être en opposition avec la foi catholique. Ce n'est pas pour autant qu'il sortira de l'Église. C'est ce que, justement, Saint-Pédis, nous avons vu ça aussi, ce dont Saint-Pie se désolait, c'est que les modernistes restaient dans l'Église et voulaient à leur tour transmettre cette espèce d'idée géniale qu'ils avaient reçue d'un autre, un philosophe, l'évolution. En conséquence, on peut, si on veut, ramasser en un mot la doctrine philosophique moderniste, c'est tout simplement donc l'évolutionnisme. Alors est-ce que l'évolutionnisme c'est nouveau? Est-ce que le modernisme c'est vraiment du modernisme? Est-ce que ce n'est pas plutôt une erreur vieille comme le monde, vieille comme l'homme? Il semble, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, donc dans les conférences précédentes, que le modernisme n'a ni science ni conscience, qu'il n'a ni loi ni foi, qu'il n'a ni père ni mère. Il semble que le moderniste, qui est justement évolutionniste, est comme capté en quelque sorte par le changement. Ces changements intérieurs, les changements des autres, les changements des situations, bref. Ce que le moderniste ne fait que voir, c'est le changement. Il n'observe que ça, il ne voit comme ça, que ça. Et il est tellement, en quelque sorte, omnubilé par le changement, qu'il en devient même, ce moderniste, captif. Il est comme captivé et enfermé même dans le changement. Il ne peut plus en sortir. Il n'arrive plus à discerner ou à pénétrer davantage quelque chose qui soit sous le changement, quelque chose qui change. Il ne fait qu'observer ce qui apparaît le plus facilement, c'est les phénomènes, justement les apparences qui changent. Ce qui le capte, le moderniste, l'évolutionniste, c'est le changement, le devenir. Alors est-ce que cette erreur est nouvelle? Eh bien pas du tout. L'erreur n'est pas nouvelle car un philosophe, justement, quelques siècles avant Jésus-Christ, un philosophe qui est né donc en 576 avant Jésus-Christ et qui est mort en 480 avant Jésus-Christ, avait déjà lui-même été capté justement par le changement, par le devenir. Il s'appelle Héraclite. Et il avait fini par dire, un peu comme le diront donc les modernistes au XXe siècle, il avait fini par dire, ne voyant que le changement, ne voyant que ce qui passe, ne voyant que les apparences fugitives et ces états différents de conscience, et bien que finalement l'être, les choses ne sont pas, n'existe, disait pour Héraclite finalement, que le devenir. Il n'y a que devenir. Il n'y a pas de choses qui demeurent, il n'y a pas de sujet stable, il n'y a que du devenir. Alors l'Héraclite, vous connaissez peut-être, a des formules qui font bien comprendre de quoi il s'agit. Il se met devant une rivière, n'est-ce pas, c'est assez constatable, et bien il dit, voyez, le fleuve n'existe pas, car à l'instant où je regarde un fleuve, l'eau que je regardais déjà passer, elle ne l'est plus. Bon, Donc le fleuve, en quelque sorte, c'est un flux. Eh bien, la réalité, le monde est comme un fleuve, une eau qui passe. Et il ajoutait, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et effectivement, vous faites un saut dans l'eau, eh bien, au moment d'ailleurs où vous avez décidé de vous sauter dans l'eau, c'est déjà plus la même eau dans laquelle vous sautez, puisqu'elle est déjà passée. On ne se baigne pas dans le fleuve dans le même fleuve. Voilà ce qu'avait capté Héraclite. C'était donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est justement, lui aussi, captif du changement. Nous descendons dans le même fleuve, dit Héraclite, et nous n'y descendons pas. Nous sommes et nous ne sommes pas. L'eau de la mer est la plus pure et la plus souillée. Le bien et le mal sont une seule et même chose. Tout passe. Alors aujourd'hui c'est bien, demain ça sera mal. Ce qu'on disait au Moyen-Âge être le bien, demain sera le mal. Autrefois on disait la contraception est un mal, aujourd'hui on dit c'est un bien. Tout passe. Tout passe. Le devenir. Voilà la philosophie d'Héraclite, reprise, Saint-Pélis le dit explicitement, par le modernisme. Car il le dit, Saint-Pélis, la philosophie sous-jacente et qui est le point de départ de la religion moderniste, c'est l'évolutionnisme. La philosophie du devenir. Alors, Aristote, qui a vécu lui aussi avant Jésus-Christ, on ne peut pas l'accuser d'être, non pas traditionnaliste, mais d'être de la fraternité des Saint-Pélis. Aristote avait déjà fustigé Héraclite, c'est ça qui est important, en lui montrant justement, après sa mort, il était déjà mort, c'est vrai, en montrant moins à ses disciples, en tout cas en réfutant l'erreur, qu'admettre ou que prétendre que tout passe, c'était finalement admettre ou vouloir l'absurde, la contradiction. On ne peut pas tenir que tout passe, qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, que tout s'écoule, sans arriver nécessairement à dire les contraires sont vrais en même temps. C'est-à-dire à l'absurde. Alors, Aristote fait ça dans son commentaire de métaphysique. Rassurez-vous, je ne vais quand même pas tout lire. C'est un peu compliqué. Dans l'édition Tricot, c'est page 222. Donc, il parle d'Héraclite. La raison de l'opinion de ces philosophes, donc c'est Héraclite, tout passe, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, etc., c'est que considérant la vérité dans les êtres, ils ont entendu paraître, donc les choses, seulement sensible. Voilà l'erreur, dit Aristote pour Héraclite. C'est qu'il n'a vu que ce qui apparaît au sens. C'est que le sensible. C'est bon, donc c'est bien. Je l'entends, donc c'est. J'entends pas, donc ça n'existe pas. Je ne vois pas, donc ça n'existe pas. Voilà l'erreur d'Héraclite. Or, il y a dans les choses sensibles beaucoup d'indétermination. C'est vrai que les choses sensibles, elles, sont mutables. Le chocolat peut fondre, la glace aussi, etc. Et de cette sorte d'être que nous avons reconnu plus haut. C'est ce qui explique pourquoi l'opinion en question, tout en n'étant pas l'expression de la vérité, c'est donc pas la vérité, n'est cependant pas sans vraisemblance. Et voilà pourquoi elle capte. Car c'est vrai qu'en regardant le sensible, les choses qui bougent, on ne peut pas dire qu'elles ne bougent pas. Seulement, elles ne sont pas en tant que telles. Elles sont modifiées, les choses. Mais les choses sont. Alors de plus, les philosophes, voyant que toute cette nature sensible était en mouvement, et qu'on ne peut juger de la vérité de ce qui change, ces philosophes, et voilà où Aristote va très loin, c'est qu'il pousse en quelque sorte Héraclite dans ses derniers retranchements. Il dit, vous dites tout passe, regardons à quoi ça conduit. Ces philosophes, donc, voyant que toute cette nature sensible était en mouvement, et qu'on ne peut donc juger de la vérité de ce qui change, puisque sans arrêt ça passe. Eh bien, ces philosophes pensèrent qu'on ne pouvait énoncer aucune vérité, du moins sur ce qui change. Et cette manière de voir, donc finalement, puisque tout passe, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien affirmer, puisque rien ne demeure. Donc il n'y a plus moyen d'affirmer aucune vérité. Eh bien, cette manière de voir s'épanouit, dit Aristote à propos d'Héraclite, dans la plus radicale de toutes les doctrines que nous avons mentionnées. C'est celle des disciples d'Héraclite. C'est celle qu'a soutenue Cratyle. Donc Aristote dit à Héraclite, vous dites tout passe, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, il n'y a que du changement, les choses ne demeurent pas, donc nous ne sommes que des changements, nos états de conscience en quelque sorte font que nous sommes autres demain qu'aujourd'hui, nous sommes autres aujourd'hui que nous étions hier, puisque nos états de conscience sont différents, nous ne sommes pas les mêmes. Bon. Ou bien un enfant n'est pas la même personne que l'homme adulte, puisqu'il a changé de taille, par exemple, ou changé de poids ou de dimension. Voilà ce que dit Héraclite. Nous ne demeurons pas les mêmes. Il n'y a rien qui demeure. Tout est changement. Eh bien, Aristote dit, si vous tenez cette position, qu'il n'y a rien qui demeure, vous en arrivez nécessairement à la position de Cratyle. craint-il qui pousse alors cette erreur jusqu'à la limite, en quelque sorte. Que disait-il, craint-il ? Ce dernier en venait finalement à penser qu'il ne faut rien dire. Ben oui, on ne peut rien affirmer. Si j'affirme quelque chose à l'instant précis, 10 minutes plus tard, ça sera faux. Donc je ne peux plus rien dire. Et même avant que je commence à parler, la chose est déjà fausse. Donc je ne peux vraiment plus parler. Avant même que j'ai fini ma phrase, le début est déjà faux. Avant même que j'ai commencé le mot ou que je l'ai fini, la chose a changé. Donc il n'y a plus moyen, ni craint-il, de parler. On ne peut plus parler. Car parler, c'est au moins dire un mot. C'est donc, en quelque sorte, réifier les choses, les statuifier, si on veut, c'est impossible. Tout passe. Alors que faisait craint-il, philosophe pourtant, si on ne peut plus parler ? Ce dernier en venait finalement à penser qu'il ne faut rien dire et il se contentait de remuer le doigt. Il n'y a plus moyen de parler. Mais Aristote va lui dire, vous en faites, craint-il, déjà beaucoup trop. Parce que remuer le doigt, c'est nécessairement faire un geste, c'est affirmer quelque chose. Et on ne peut rien affirmer puisque tout passe. Donc Aristote va dire à craint-il, vous ne pouvez même pas remuer le petit doigt. C'est impossible. Car remuer le petit doigt, c'est signifier quelque chose par un geste. Et alors un animal peut faire un geste qui signifie quelque chose. Donc il affirme encore une fois. Lorsque l'animal commence à baver, en quelque sorte, devant son plat de viande, eh bien, il y a un geste qui signifie effectivement qu'il a faim, donc on comprend. Il y a donc une signification, il y a donc une affirmation. Eh bien, c'est impossible. Si tout passe, on ne peut rien affirmer puisque les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Donc on ne peut pas désirer une chose puisque cette chose qu'on désirait n'est plus. Donc craint-il va même trop loin, on ne peut même pas remuer le petit doigt. Craint-il reprochait effectivement Héraclite d'avoir dit qu'on ne descend pas deux fois dans le même fleuve, car il estimait, lui, qu'on ne peut même pas le faire une seule fois. Bon, ici, il n'y a qu'à imaginer, donc, Craint-il et Héraclite en maillot de bain devant un fleuve, n'est-ce pas ? Alors Héraclite dit, bon, je saute, mais non pas dans le fleuve, mais dans cette masse d'eau qui bientôt passera. Craint-il lui dit, moi, je ne peux même pas sauter parce que le fleuve n'existe pas. Bon, de toute façon, les deux se noient. Voilà, si vous voulez, donc c'est Aristote, encore une fois. C'est Aristote, c'est pas ni saint Thomas, ni saint Pédis, ni Pie IX qui dit ça, c'est simplement Aristote. Donc, c'est du bon sens. Bon, c'est de la philosophie si on veut, mais c'est simplement du bon sens. Et alors, Aristote précise qu'à tenir donc cette non-vérité, finalement cette absurdité que tout passe, on en arrive à tenir l'absurde, alors c'est ce qu'il a dit un peu plus avant. Qu'est-ce que c'est que l'absurde ? C'est tenir des contradictoires. C'est ce qu'affirme encore une fois Aristote à propos d'Héraclite. Alors les contradictoires, ça serait dire qu'une chose peut être en même temps son contraire. Donc la table, par exemple, en ce moment, pourrait être et blanche et noire. Ça serait donc la philosophie d'Héraclite. Alors comme il dit, on peut dire ces choses-là, mais on ne peut pas les penser. Tout ce qu'on dit, on n'est pas obligé de le penser. Car c'est impensable de penser que la table est en même temps blanche et noire. On peut peut-être le dire, mais on ne peut pas le penser. C'est impensable. L'absurde est impensable. Voilà ce que dit Aristote à propos d'Héraclite. Donc il dit, vous pouvez prétendre que tout passe, vous pouvez prétendre ou dire qu'on ne se baigne pas dans le même fleuve, mais c'est impensable. Les choses sont, même si vous ne reconnaissez pas. Ça, c'est différent. Voilà donc la philosophie, en quelque sorte évolutionniste, ou bien la philosophie de devenir. C'est le grand maître Héraclite, non pas qu'il l'a inventé, mais qu'il l'a précisé, et qui a donc été réfuté par Aristote. Alors pour saint Pédis, le moderniste est donc un autre ou un disciple d'Héraclite. Seulement, il faudrait savoir, donc ça, Saint-Pédis l'a dit de façon précise, c'est évolutionniste, c'est-à-dire tout passe. Et nous avons vu, effectivement, alors que la tradition n'est que, justement, l'expression de, comment dirais-je, sentiments individuels sentis, quelque chose qui passe, et les mots n'ont que vertu suggestive pour réveiller en nous des impressions, quelque chose qui passe. L'Église elle-même, on a vu, c'est une conscience collective, donc c'est un ramassis ou une collection d'états successifs. Mais donc l'Église elle-même, elle est sans arrêt en mutation, car elle doit en quelque sorte intégrer sans arrêt ces différents états donc individuels. On a vu donc que la foi elle-même est un sentiment, et donc elle est quelque chose de sensible, sans arrêt en train d'évoluer. Donc c'est encore une fois disciple d'Héraclite, on en reste au niveau des faits sensibles. Le dogme est une formulation de ces faits sensibles. Donc le moderniste est vraiment, Saint-Pie a raison, un évolutionniste. Il est tout simplement disciple d'Héraclite. Et Saint-Pie a raison de dire que c'est bien le philosophe qui met en quelque sorte la machine en marche. C'est parce qu'on est appuyé sur cette philosophie de devenir qu'on est moderniste. même si, nous avions vu ça la première fois, celui qui est historien moderniste ne prétend pas avoir cette philosophie. Effectivement, l'historien, il arrive en cours de route. Mais la façon même dont il fait l'histoire est fondée, même s'il ne se l'avoue pas lui-même, sur le principe héraclitéen du devenir. Toutes choses ne sont que des différenciations, mais rien ne demeure. Alors, est-ce que le moderniste ou le modernisme est un monstre ou pas? Eh bien, Saint-Pélice est très clair. Il a, en quelque sorte, il nous explique ce que c'est que la philosophie d'Héraclite, que c'est bien celle du modernisme, dans le paragraphe 50. Il le dit explicitement. Saint-Pélice va dire ce que nous venons de dire dans Aristote, que si on est moderniste, on en arrive nécessairement à tenir la contradiction. C'est-à-dire qu'une chose est en même temps son contraire. C'est dans les principes même du modernisme. Saint-Pélice le dit. Il suffit de lire. Les dogmes, point d'exclamation, ils foisonnent de contradictions flagrantes. Mais sans compter que la logique vitale les accepte, la vérité symbolique n'y répugne pas. Nous avons vu ça puisqu'elle fait état de conscience. Est-ce qu'il ne s'agit pas de l'infini? Et est-ce que l'infini n'a pas d'infinis aspects? Voilà le fondement, c'est infini. Les aspects sensibles sont infinis. Il s'agit donc de décrire l'infini. Ben, il faut une infinité de descriptions pour décrire l'infini. On n'y arrivera jamais. Enfin, nous dit le pape, ils tiennent tant et si bien à soutenir et à défendre les contradictions qu'ils ne reculent pas devant cette déclaration que le plus bel hommage à rendre à l'infini, avec un I majuscule, c'est encore en faire l'objet de propositions contradictoires. Donc vous voyez, c'est explicite dans Saint-Pélice dans le modernisme. Saint-Pélice dit bien, ils tiennent cette philosophie du devenir, ils sont évolutionnistes, ils vont donc tenir la contradiction. Et vont donc tenir des discours, c'est très important, des discours dans lesquels les propositions sont contradictoires. Donc dans un même discours, on aura la table blanche et la table noire. Dans le même discours. Alors si on avait des princes, on imagine l'Église, n'est-ce pas, imaginable. L'Église avec des princes, par exemple, ou des évêques, je ne sais pas, diocésains, qui seraient modernistes, leur discours serait un tissu de contradictions. Parce qu'ils sont modernistes. C'est explicite dans Saint-Pélice. En vérité, dit le pape, quand on a légitimé la contradiction, y a-t-il quelque chose que l'on ne puisse légitimer? On peut tout admettre, puisque tout est vrai sans contradictoire en même temps. Donc on peut tout dire, ou plutôt on ne devrait rien dire, puisqu'ils sont en fait, on ne pourrait pas parler. Si c'était logique, par contre, ils ne pourraient rien dire. Seulement, ils ne sont pas cratiles. Ils en restent au stade de d'Héraclite. Ils sont évolutionnistes, c'est-à-dire ils en restent aux apparences sensibles, qui effectivement, en tant qu'apparences sensibles, ça c'est vrai, sont sans arrêt mutables. Mais ils oublient que ce sensible est fondé en quelque sorte ou repose sur un sujet, donc ils en restent au sensible. En tant que tel, il y a évolution permanente. Et si on en reste au sensible, alors on peut tenir des propositions contradictoires. Et donc on peut tout dire et dire n'importe quoi. Tout est vrai ou tout est faux. Voilà ce que Saint-Pélice dit explicitement du moderniste. C'est finalement dire, puisque le discours du moderniste sera un discours de propositions contradictoires, c'est dire que finalement le moderniste ne va rien affirmer et rien nier. C'est impossible, c'est contraire, contradictoire justement, à sa propre philosophie. Il ne peut plus rien affirmer, il ne peut plus rien nier. Il tombe, donc le moderniste, dans le scepticisme radical. Il ne sait pas. Il va décrire, effectivement, tel phénomène, telle apparence sensible. Maintenant je dis ça, mais peut-être que demain je dirai le contraire. Qui sait? Il ne sait pas lui-même. Il est vraiment sceptique. C'est un scepticisme radical. Et qui est logique, vous voyez, il découle nécessairement de leur philosophie, qui est fondée sur l'évolution, comme dit Saint-Pélice. Donc le moderniste, eh bien, il est non seulement il est héraclitéen, mais il va jusqu'à Cratyle. Et en conséquence, il devrait normalement ne plus parler, puisqu'il lui est impossible d'affirmer, il lui est impossible de nier quoi que ce soit, il lui devient normalement impossible de parler, puisque parler, c'est prendre un mot pour signifier quelque chose. Ça lui est impossible, puisqu'on ne peut rien signifier. Alors comment Aristote, allons plus loin, caractérisait-il à son époque, 5e siècle avant Jésus-Christ, enfin pour Héraclite, que reste-t-il à ces gens qui finalement tombent dans le scepticisme radical comme Cratyle, puisqu'ils ne peuvent rien affirmer ou rien nier? Cratyle le dit, je ne peux pas parler, je ne peux rien dire, puisque rien n'est. Aristote dit, mais vous ne pouvez même pas faire un signe du petit doigt, parce que faire un signe du petit doigt, c'est déjà affirmer quelque chose. Si vous signifiez que vous avez soif en bougeant le petit doigt, on comprendra, vous affirmez, j'ai soif. Or, on ne peut rien affirmer si on est évolutionniste, puisque tout est vrai et contraire en même temps. En conséquence, dit Aristote, le moderniste n'est pas un homme, parce que l'homme, s'il est vraiment homme, il fait œuvre d'intelligence, il affirme, il nie, il comprend le réel et il l'exprime par des mots. Mais Aristote va plus loin. Le philosophe du devenir, Héraclite si on veut, le moderniste pour nous, l'évolutionniste, n'est pas non plus un animal. Car l'animal, dit Aristote, est encore capable de signifier quelque chose. On le voit très bien dans les animaux domestiques. Un chien est capable, par son attitude, de signifier tel ou tel sentiment. Bon, ou un chat ronronne, bon, il signifie qu'il est content sur les genoux de sa maîtresse, etc. Il se fait caresser le poil dans le bon sens, ça va bien. Un animal signifie quelque chose. Donc un animal est encore capable d'affirmer quelque chose, ou de nier. Un animal peut très bien nier un fait, ne pas vouloir. Un âne est assez fort dans ce genre. Donc un animal peut faire quelque chose. Il refuse d'avancer, ça se voit, ça se manifeste. Donc l'évolutionniste pour Aristote n'est ni un homme, fait pas œuvre d'intelligence, il en reste sensible. Ni un animal, puisque l'animal est encore capable de signifier. Qu'est-ce que c'est qu'un évolutionniste, alors pour Aristote ? Eh bien, il le dit là encore, toujours dans le même livre, Gamma 4, car c'est le quatrième livre de la métaphysique dans lequel justement il réfute Héraclite. Il est cependant donc possible, alors il va montrer à Aristote qu'on peut quand même réduire l'adversaire. Et il dit pour réduire l'adversaire, pour montrer que l'adversaire se trompe, on ne peut pas le réduire à l'absurde, puisque l'absurde il l'admet. Donc c'est une autre façon de montrer que l'adversaire se trompe. Et pour ça, dit-il, il suffit que l'adversaire, pour lui montrer qu'il se trompe, dise simplement quelque chose, un seul mot. Car s'il ne dit rien, si l'adversaire ne dit rien, il est ridicule de chercher à discuter avec quelqu'un qui ne peut parler de rien, c'est-à-dire qui ne peut rien affirmer. Si quelqu'un, effectivement, ne peut rien affirmer, donc ne peut pas parler, ne peut rien signifier, il n'est ni homme ni animal, un tel homme, dit alors Aristote, en tant que tel, est de leur semblable un végétal. Il est une plante verte, comme dit saint Thomas, par contre, qui le commente. Voilà ce qui reste. Et ça, c'est dans Aristote, c'est pas du tout, vous voyez, dans Saint-Pédis, évidemment, il a beaucoup plus de respect pour les évolutionnistes. Mais c'est la conséquence inéluctable de leur philosophie. S'ils sont évolutionnistes, ils ne peuvent plus rien affirmer, aucune vérité n'est stable, tout est vrai, le contraire en même temps, on ne peut rien signifier, la parole est vaine, même les gestes sont vains, on est donc réduit à l'état de végétal. Pourquoi ? Parce que végétal signifie absolument rien. Bon, voilà ce que dit Aristote de l'évolutionnisme. C'est dire, tout simplement, Aristote l'a précisé, Saint-Pédis aussi, eh bien que l'évolutionnisme est donc le modernisme, puisque l'un est pris pour l'autre, Saint-Pédis l'a manifesté, c'est ce qu'on appelle un sensualisme, c'est-à-dire qu'on en reste au niveau du sensible, et c'est aussi donc un anti-intellectualisme, puisque c'est refuser à l'homme la capacité par son intelligence de connaître. Donc le modernisme en tant que tel, en tant que philosophie, c'est un sensualisme et un anti-intellectualisme. C'est finalement un sceptique. C'est un grand sceptique. Et alors il y a un livre qui est apparu chez Frein, n'est-ce pas, l'année dernière, ça s'appelle « La décision du sens » par Barbara Cassin et Michel Nancy, donc qui sont des professeurs de Sorbonne, donc qui ne sont pas non plus cette maison, qui ont fait un commentaire, justement, une traduction d'Aristote de ce livre que je viens de vous lire. Eh bien, donc, dans l'introduction, ils disent, justement, à ce propos de ces évolutionnistes, donc Héraclite et les autres, ils, en quelque sorte, les fustigent, et l'interpellent, donc, c'est Barbara Cassin, interpelle, en quelque sorte, Héraclite, et lui dit, « Signifie quelque chose si tu n'es pas une plante, ou acculturé. Parle si tu es un homme. » Voilà bien le problème. Si on est un homme, on peut affirmer quelque chose. Sinon, on n'est pas homme, on est réduit, on a vu, à un végétal, une plante verte. Voilà pourquoi j'appelle le modernisme un monstre. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? Je vais encore voir Aristote pour le préciser. Un monstre, Aristote voit ça dans le deuxième livre de son traité physique, au chapitre 8. Il arrive, voilà ce que dit Aristote à propos des monstres, il arrive aux grammairiens d'écrire incorrectement. Il arrive au médecin d'administrer mal à propos sa potion. Bon, ça on le constate malheureusement tous les jours. Par suite évidemment, pour le grammairien j'entends comme le médecin. Par suite évidemment, donc ça c'est pour l'art, dans l'art, c'est l'art de la grammaire, on peut faire des erreurs. Le médecin peut aussi faire des erreurs. Eh bien, dit Aristote, il en est de même dans la nature. Cela est possible aussi dans les choses naturelles. Alors, quant aux choses naturelles qui sont en quelque sorte défaillantes, comme si vous voulez, le grammairien peut être défaillant, le médecin peut être défaillant, eh bien, il y a des êtres de nature qui sont défaillants, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas parfaitement leur nature. C'est justement ce qu'il appelle des monstres. Donc c'est par exemple, eh bien, le mouton à deux têtes. Alors un mouton à deux têtes, au sens propre, c'est un monstre, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas parfaitement, eh bien, sa nature de mouton. Bon. Alors saint Thomas explique, commente ce passage d'Aristote. C'est pour bien préciser ce que c'est qu'un monstre, parce qu'il a un mot un peu, enfin que ne dit pas Aristote, qui est intéressant. Saint Thomas parlera de péché. Il va parler de péché de nature. Le monstre est un péché de nature. Alors il reprend tout simplement ce que dit donc le Sagirite. Je vous donne saint Thomas cette fois-ci. Donc il dit quoi que l'art agisse pour une fin, donc a une fin en vue, il arrive cependant, eh bien, dans l'œuvre d'art, dit saint Thomas, qu'il y ait péché. Saint Thomas parle de péché, peccatum. Donc c'est un péché, on peut dire, de l'artiste. L'artiste fait un péché d'artiste lorsqu'il fait une erreur. Exemple, le grammairien, quand il n'écrit pas correctement, fait un péché d'artiste. Il se trompe, il défaille. Péché ici, pris pour défaillance. Le médecin, qui ne donne pas comme il convient une potion médicinale, eh bien, fait un péché de médecin. C'est un péché en tant que médecin. Bon. Eh bien, dit saint Thomas, il en est de même dans les œuvres de la nature, comme dans l'art. De même qu'il peut y avoir défaillance dans l'ordre de l'art. Bon, un peintre peut se tromper, un médecin aussi. De même, dans les choses naturelles. Et alors, dans les choses naturelles, les monstres, c'est justement le mouton à deux têtes, l'homme avec trois yeux, ou avec six doigts par main, etc. Dans les choses naturelles, les monstres sont des péchés de nature. Mais, dit bien saint Thomas, ils sont quand même la nature, voyez, mais elle est défaillante. Elle n'est pas parfaite. Elle ne réalise pas parfaitement sa nature. Le monstre, un mouton à deux têtes, on dit c'est quand même un mouton, justement. Mais c'est un monstre. C'est quelque chose de monstrueux. C'est quelque chose, donc, il y a une difformité telle qu'on dit que c'est un monstre. C'est ça qui est important pour nous. Et c'est pourquoi le modernisme est un monstre. Car il est quand même, justement, bien que donc, sa philosophie conduise à un scepticisme radical, il est réduit à l'état de végétal ou de plante verte, il n'en reste pas moins apparemment un homme. Il est un homme, mais un homme monstrueux. Parce qu'il, en quelque sorte, il est un péché de nature, si on veut, dans la mesure où, justement, il ne fait pas œuvre humaine. Il ne fait pas œuvre d'intelligence, qui est le propre de l'homme et qui le distingue de l'animal. Il ne fait même pas œuvre d'animal, puisqu'il n'affirme plus rien. Donc le moderniste est un monstre. C'est un être de nature, c'est-à-dire un être naturel, comme tous les hommes. Seulement, il est complètement, en quelque sorte, tout à fait déformé, tout à fait difforme. Bon, seulement ça ne se voit pas. Un mouton à deux têtes, on voit bien justement, on voit les deux têtes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un monstre, ça se voit, monstre, c'est clair. Tandis que le moderniste, ça ne se voit pas. Voilà pourquoi c'est dangereux. C'est que le monstre, qu'est le moderniste, cache bien son jeu. On ne voit pas que sa monstruosité est intérieure. Bon, c'est en quelque sorte comme le virus, n'est-ce pas, qu'il a attrapé du philosophe qui lui avait transmis. Monseigneur Lefebvre, dans une conférence à Alençon, il y a 3-4 ans, avait parlé donc justement de sida intellectuel ou sida spirituel. C'est un peu la même chose. Ça ne se voit pas si on veut, encore ça finit par se constater, mais c'est quelque chose qui s'inocule en quelque sorte petit à petit, et qui fait tomber donc dans un état qui n'est plus humain. C'est ça qui est très grave. C'est que cette monstruosité atteint tous ceux qui sont en quelque sorte en contact, parce que c'est comme ça, ça se transmet, on pourrait dire, par tous ceux qui sont en contact avec de pensée, et finit par faire tomber tous ceux qui sont en contact dans le scepticisme radical. On ne peut plus rien affirmer, ou plutôt, on dira les contraires en même temps. Alors venons-en, avançons un peu plus, après avoir vu Saint-Pédis, puisque le but c'est quand même de voir si le modernisme est encore mort ou vif. Est-ce que l'évolutionnisme moderniste est mort, ou est-ce qu'il est vif ? Alors le problème est un peu plus compliqué, il faut préciser, et je m'appuierai cette fois-ci sur le chanoine Vernot, qui était professeur donc à l'Institut catholique, qui a écrit un livre qui a été publié chez Tecky, qui s'appelle « Leçon sur l'existentialisme ». Est-ce que la philosophie d'Héraclite existe toujours? Est-ce qu'il y a encore des philosophes, en quelque sorte, pour tenir cette philosophie évolutionniste? Pour tenir qu'on peut, en quelque sorte, comme affirmer les contraires en même temps. Ou que l'absurde, finalement, n'est pas l'absurde. Eh bien, Vernot, donc, dans ses leçons sur l'essentialisme, affirme, donc c'est pour ça que je le prends, parce qu'il va assez vite s'il est vrai, affirme que la philosophie qu'on appelle phénoménologie est effectivement un sensualisme et finit elle-même par réduire au scepticisme. Donc on retrouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui phénoménologie l'erreur d'Héraclite, sensualisme, anti-intellectualisme, évolutionnisme. Alors je vous donne quelques phrases de Vernot pour montrer un petit peu ce que c'est que la phénoménologie. Son père, en quelque sorte, cette fois-ci c'est pas Héraclite, Héraclite c'est la philosophie de devenir, le père de la phénoménologie c'est Husserl, disons. C'est, dit Vernot, donc dans ce livre à la page 42, la phénoménologie est une philosophie intuitive, et on sent, une sorte, dit encore le chanoine, d'empirisme. Donc on est encore au niveau de l'expérience, le phénomène constaté. Husserl, donc ce Héraclite des temps modernes, a pour but de décrire les phénomènes tels qu'ils se présentent. Et le moi, leur senti en quelque sorte, à qui ces phénomènes sont présentés. Et alors le chanoine Vernot précise bien justement que Husserl, c'est page 44, Husserl pousse le scepticisme, voilà, il passe par le même doute que Descartes pour commencer, il pousse le scepticisme aussi loin que possible. Il dit non, rien, je dois nier tout avant de m'être rendu compte en quelque sorte. Il va même, donc Husserl, jusqu'à nier tout simplement, ou plutôt mettre entre parenthèses, comme il dit, le monde extérieur. On ne peut plus rien affirmer, même l'existence du monde extérieur. Husserl pousse le scepticisme jusque-là. Il n'y a plus rien qui reste alors, pour Husserl, sauf le moi pur. Mais qu'est-ce que c'est que le moi pur pour Husserl, père de la phénoménologie? C'est le flux pur du vécu. Voilà ce que dit Husserl. Donc ça, c'est les mots même d'Husserl. Qu'est-ce que c'est que le moi? C'est tout simplement donc la donnée fondamentale à laquelle se réduit ou se ramène toute connaissance, après avoir mis entre parenthèses tout, même le monde extérieur, eh bien, c'est le flux pur du vécu. On retrouve, vous voyez, les termes que Saint-Pie avait employés. Et c'est pourquoi, dit le chanoine Vernot, page 48 de son livre, là, nous avons donc affaire, dit-il, à une philosophie strictement empiriste. Je dirais même, ajoute-t-il, que la phénoménologie husserlienne est un développement du scepticisme. Donc de Cratyle à Husserl, il n'y a pas de différence. Ils sont tous finalement réduits à l'état de végétaux. Seulement ils parlent. Des végétaux qui parlent. Alors cette phénoménologie est une philosophie par contre très actuelle. Puisque nous sommes dans le modernisme, à savoir s'il est mort ou vif. Puisque la phénoménologie se ramène finalement à cet évolutionnisme ou bien ce scepticisme qui est le point de doctrine fondamental du modernisme, eh bien, est-ce que le modernisme est à l'œuvre dans l'Église? Oui ou non? Alors, je m'appuierai sur des deux livres. C'est le livre, d'une part, de Bouttiglione, le professeur Bouttiglione, sur lequel je m'étais déjà appuyé une fois, qui a fait un livre, donc, ça s'appelle « La pensée de Karol Wojtyla ». Et d'autre part sur Malinsky, qui a fait lui aussi, le père Malinsky, un livre, donc « Mon ami Jean-Paul II ». Donc les deux, en quelque sorte, ont bien sûr pris contact et lu et étudié. Le père Bouttiglione étudie toutes les œuvres de Karol Wojtyla, et le père Malinsky raconte en quelque sorte, car c'est son ami proche, un des plus proches, raconte en quelque sorte eh bien, toutes ces années passées avec le pape, donc Jean-Paul II. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le pape, éventuellement, aurait une philosophie phénoménologique, ou phénoménologiste. Alors, donc, je vous ai dit, donc, le père de la phénoménologie, c'est Husserl. Pierre Memtu, d'ailleurs, en donne une bonne explication, page 50 de son opuscule est suivante. Donc, Husserl, il a vécu de 1859 à 1938. Pour Husserl, comme dit Vernot, donc, les jeux sensibles, on reste au niveau du sensible, et la conscience, on l'a vu, c'est un flux pur du vécu. Donc c'est en quelque sorte il n'y a de conscience que dans ce senti. Bon, la conscience, donc, d'après Husserl, ne se constitue que dans des relations senties, en quelque sorte, avec les autres. Alors Husserl aura un disciple, si on veut, c'est Scheler. Scheller, qui est donc mort, lui, en 1928. Il est né après 1874-1928. Il va donc aller un peu plus loin, ou dépasser Husserl, et il va préciser donc un petit peu ce que Husserl avait commencé. Il considère que la vie, donc Scheller, est éclairée par des valeurs. C'est pas vraiment la vérité, ce sont des valeurs, bon, comme la vérité, la liberté, pardon, oui, la personne, la justice, etc. Ces valeurs, ces espèces de vécu, si vous voulez, ne sont pas des réalités qui existent. Les valeurs, en quelque sorte, c'est des valorisations, plutôt, que l'homme donne à ce qu'il constate, à ce qui l'entoure. Ces valeurs ou ces valorisations, pour Scheller, donc disciple de Husserl, c'est plutôt des idéaux à vivre. C'est quelque chose, c'est un vécu, si vous voulez, un vécu à vivre, justement, un senti à vivre. Donc on reste au niveau, pour Scheller encore, même avec quelques, peut-être, variantes sur Husserl, au niveau du sensible, du phénomène. Alors à ce propos, justement, de ces philosophes, Husserl en particulier, et puis Scheller, le professeur Bouttiglione, donc, dit ceci à propos, donc, rapporte plutôt ces propos, donc, de Karol Wojtyla, puisque le professeur Bouttiglione a travaillé sur la pensée du cardinal Wojtyla, donc avant qu'il ne soit pape. C'est pour ça qu'il parle de Karol Wojtyla. Alors il fait parler donc le pape lui-même, c'est page donc 39 de son livre, où nous l'avions déjà abordé une fois, le pape parle du théâtre, la fonction justement du théâtre. Quelle est l'importance du théâtre? La fonction communicative, le poids de l'événement, la trame même au sens habituel, sont naturellement et sévèrement limités dans un tel théâtre. Donc, c'est celui dont parle le pape, en temps avant d'être pape. Puisque plus que l'événement, ce qui intéresse, c'est ce qui se passe dans la conscience et de quelle manière la réalité objective se déploie en elle. Cet élément, sans doute, peut aider à comprendre de quelle manière particulière et très originale de nombreux thèmes de la phénoménologie seront repris et vécus par, justement, le pape, enfin, le Karol Wojtyla. Sa première initiation, donc, pour le pape, à la phénoménologie, se fait par cette voie indirecte du théâtre, par l'expérience vécue comme acteur, donc, sous la direction d'un maître, donc, de théâtre qui s'appelait Kotlarczyk. Donc, vous voyez, Jean-Paul II, en quelque sorte, enfin, avant qu'il ne soit Jean-Paul II, a été initié à cette, comment dirais-je, expérience, si on veut, philosophique, enfin, à la phénoménologie, par, justement, le théâtre, pour arriver à faire approcher, justement, à ceux qui regardent, et même à celui qui joue, eh bien, des états de conscience, un vécu, plus qu'une réalité à saisir. Le père Malinsky, par contre, lui, donc dans à la page 33 de son ouvrage, Mon ami Jean-Paul II, alors dit la même chose, là je les cite pour montrer donc, combien la phénoménologie de cette philosophie donc, est celle de Jean-Paul II. Il précise justement à propos du théâtre, alors ça cette fois-ci c'est le pape qui parle, « Parler des répétitions à propos de quelques pièces jouées par quelques acteurs, tête brûlée, peut paraître bizarre aujourd'hui. » Mais Jean-Paul II ajoute, « C'est une mission, une vocation. » C'était le sacerdoce de l'art. Les acteurs, en tant que prêtres de l'art, dotés d'une force illimitée pour renouveler le monde, pour refaire l'humanité entière, pour guérir la morale à travers la beauté prêchée, transmettaient les plus hautes valeurs métaphysiques. Vous voyez, on fait sentir, en quelque sorte, on fait éprouver quelque chose, et c'est là ce qu'il appelle valeur métaphysique, vérité. Ce qui est différent. C'est pas faux. Effectivement, il faut faire percevoir à un spectateur une vérité. Mais n'en pas rester alors un vécu ou un senti. Alors, c'est toujours donc Bouttiglione qui remarque ceci donc, dans son livre. Donc le cardinal Wojtyla va passer donc un doctorat sur la foi chez Saint-Jean de la Croix. Ce doctorat sera donc patronné par le père Guéroult-Lagrange, qui fera d'ailleurs une objection à cette thèse que fera le pape, parce qu'il dit qu'il refuse d'utiliser à propos de Dieu, donc cardinal Wojtyla dans sa thèse, le terme d'objet. Donc ce à quoi on adhère. Il n'y a pas le terme d'objet quand il parle de Dieu pour la foi, dans la thèse de Karol Wojtyla, ce qui est assez ennuyeux. Bon, et le père Guéroult-Lagrange, donc dominicain, a fait remarquer aussi dans son commentaire de sa thèse, donc la tendance à développer le côté subjectif du problème. Bon, ça vous montre déjà la difficulté. Donc il tient pour ça de Descartes et puis Kant. Ces remarques du père Guéroult-Lagrange se trouvent dans l'édition latine de la thèse de Jean-Paul II que l'on vend à la procure, sans aucune publicité. Alors, après donc son doctorat passé, et donc admis quand même, la thèse est passée, est admise, et bien peu après l'obtention de son doctorat, donc dit le Bouttiglione, Wojtyla se rendit en France pour étudier de près la vie et les méthodes pastorales de la JOC. Revenu à Cracovie, il prépare un second doctorat, donc une autre thèse de faculté, sur, alors voilà le thème du doctorat, la possibilité de fonder une éthique chrétienne sur la base philosophique de Max Scheler. Mais cet ouvrage, dit Bouttiglione, ne reçut pas un accueil enthousiaste. Cependant, un membre du jury était destiné à avoir une grande influence sur le développement de sa pensée. Il s'agit de Roman Ingarden, l'un des premiers élèves de Husserl. Ingarden refusa toujours cependant de suivre son maître dans la voie de la conversion idéaliste de la phénoménologie. Il manifesta un intérêt particulier pour l'intuition des valeurs de la vie éthique. Sa façon d'entendre la phénoménologie se rapproche beaucoup de celle de Scheler. Alors Ingarden, dit Bouttiglione, fera connaître à Karol Wojtyla Scheler et la philosophie moderne, Kant en particulier. Et donc la thèse de Jean-Paul II, qui s'appelle Personne et Actes, sera justement imprégnée de la phénoménologie, donc de Ingarden en particulier, donc de Scheler. Et alors il ajoute quelques détails intéressants pour la situation actuelle. Il ajoute, Bouttiglione, à propos de ça, alors influence Ingarden, donc ce philosophe qui lui transmet finalement Scheler, mais influence aussi d'Edith Stein, assistante de Husserl. Edith Stein qui entrera au Carmel, où elle recevra le nom de sœur Bénédicte de la Croix. Le pape l'a béatifié le 1er mai 1987 sur le stade de Cologne. Et alors le pape a dit ça justement à propos de sa béatification, donc c'est ici dans la croix en 1987. Sous l'influence de son professeur Husserl, elle s'oriente vers la philosophie, découvre Max Scheler, donc Edith Stein, enfin sœur Bénédicte de la Croix, qui l'initie aux idées catholiques. Mais sa longue lutte pour une adhésion personnelle à la foi en Jésus-Christ s'achève seulement en 1921, quand elle ouvre une autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila. Vous voyez dans ce texte la difficulté qu'il y a. On voit mal comment on peut dire que découvrir Max Scheler initie aux idées catholiques. Bon, alors on peut admettre qu'après, effectivement, parce qu'elle a lu Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, elle est bien heureuse. Bref, Karol Wojtyla, continue Bouttiglione, fut sacré évêque en 1958, bon, etc., en qualité d'administrateur de la capitale. Bon, nous avons cité les interventions qu'il fit sur la liberté religieuse, le pape, et sur l'athéisme. Alors, comment l'athéisme est-il défini par Karol Wojtyla ? Entre guillemets, non comme négation de Dieu, mais comme un état de conscience de la personne humaine. Voilà une expression qui manifeste bien une philosophie. L'athéisme n'est pas une négation de Dieu, c'est un état de conscience. On ne peut pas dire beaucoup plus. Quelques années après le Concile, en 1969, alors Karol Wojtyla justement fait paraître sa thèse donc, de doctorat, c'est l'ouvrage principal de la pensée du pape, certainement, qui s'appelle donc Personne et Actes, qui est donc, comme le dit Bouttiglione, la formulation achevée de sa philosophie. Alors le livre fut discuté en 1970 à l'Université catholique de Lublin par l'ensemble du corps professoral qui apportait le jugement suivant. Les professeurs thomistes les plus orthodoxes de la faculté, et en premier lieu Capriec, exprimèrent leur critique contre cet irrespectueux mélange de thomisme et de phénoménologie. C'est bien ce qu'avait tenté l'auteur. Donc le pape, effectivement, voulait faire quoi ? Eh bien, une synthèse harmonieuse entre saint Thomas et la philosophie moderne. Entre la phénoménologie et le thomisme, qui sont non contradictoires, puisque le thomisme, il est aristotélicien dans ce sens-là, et donc on voit que c'est contraire, effectivement, à la philosophie d'Héraclite, qu'Aristote lui-même a réfuté. Alors après la mise en garde des papes et le court résumé donc on a donné des philosophies, est-ce que effectivement pouvait-il y avoir autre chose qu'un irrespectueux mélange ? Eh bien Malinsky demande, donc le père Malinsky, donc l'ami du pape, demande au pape lui-même sur quoi il a travaillé, comment il a fait. Et le pape répond, difficile à préciser, j'ai écrit des articles divers, ce qui en ce moment me semble le plus important, c'est de réconcilier deux grandes philosophies, le thomisme et la philosophie de Max Scheler, dont le père était Husserl. D'après moi, ce qui est essentiel, c'est le problème des valeurs que montre Scheler. En vérité, c'est celui de l'homme. Dans la phénoménologie, je trouve un outil philosophique, rien de plus. Elle n'a pas de vision générale du monde, appelons-la métaphysique, il faudrait la créer. Et c'est justement ce qu'a entrepris le pape. Il a voulu essayer de concilier les inconciliables, puisque c'est thomisme, si on veut, donc Aristote, et puis Cratyle. Alors entre le thomisme, comme le dit Bouttiglione, entre le thomisme et le subjectivisme ou l'humanisme, toute conciliation restera par nature impossible. C'est Bouttiglione qui le dit. Donc pour résumer ces trois ouvrages, alors qui sont ceux du pape, donc Amour et responsabilité en 62, Personne et acte en 69, Aux sources du renouveau en 72, les trois grandes œuvres de Jean-Paul II, eh bien le père Malinsky écrit, donc à propos de Jean-Paul II, on peut discerner dans sa façon de penser, alors les idées de Gabriel Marcel, qui est justement donc peut-être existentialiste ou phénoménologiste, celles de Heidegger, qui est le grand-père de la phénoménologie, de Jasper, de Sartre, c'est Malinsky qui dit tout ça, évidemment de Max Scheler, de Husserl et d'Ingarden. Tout ceci restitué dans la grande philosophie de l'être, suivant l'interprétation de saint Thomas. Ajoutons toutefois que la philosophie de l'homme, créée par le cardinal Karol Wojtyla, n'est pas éclectique, elle constitue une œuvre personnelle. Le modernisme est-il mort ou vif? À vous de répondre. Et j'en ai fini pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis plus rapide, mais plus difficile. Donc on voit, si vous voulez, que le Saint-Pice a vu que le modernisme est un évolutionnisme qui porte des noms divers, qui a des visages divers, mais même si les visages sont divers, le monstre demeure. Bon, je ne dis pas que Jean-Paul II est un monstre, mais je dis simplement ce que Mgr Tissier de Malraye avait dit dans une conférence qu'il a faite à Nantes en 1988, si je ne m'abuse, en septembre 88 ou 89. Voilà ce qu'il disait, ça avait été publié dans le bulletin, donc ça s'appelle l'Hermine, je crois, du prieuré Saint-Louis de Nantes. Mgr Tissier disait ceci, « Ce qui compte pour le pape actuel, c'est sa propre pensée. On dirait qu'il est en contemplation devant sa propre pensée. » Il tenait cette thèse en tant que cardinal. Une fois pape, ce rêve solitaire va devenir le magistère de l'Église. En toute bonne foi, le pape va se croire assisté par le Saint-Esprit pour transmettre ce qui est le fruit de sa propre pensée. Comment voulez-vous que nous, donc disait Mgr Tissier, ayons accès, que nous puissions communier avec un tel pape? Lui, sa foi, c'est sa propre pensée. Nous, la foi, c'est ce que Dieu nous a révélé. Comment voulez-vous que cela concorde, que nous puissions nous rejoindre un jour, disait encore Mgr Tissier. Comment peut-on accéder à un tel esprit qui est comme enroulé sur lui-même, recroquevillé sur lui-même, enfermé dans le cercle étroit de ses propres pensées? Le pape est comme occupé par une idéologie tout à fait étrangère à la foi catholique, une idéologie personnelle. Aucun recours au pape n'est possible pour résoudre la crise de l'Église. Mgr Lefebvre dit « Le pape est moralement occupé. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas Rome, c'est la personne même du souverain pontife. Il ne peut pas juger de la crise de l'Église, parce que pour cela, il faut se référer à la tradition. Il est même incapable de prendre les décisions qui s'imposent pour résoudre la crise. Il est empêché de gouverner moralement. » Je crois que ça résume bien, malheureusement, la philosophie de Jean-Paul II, dont il est imprégné. Et alors, l'auteur dont je parlais tout à l'heure, Barbara Cassin, qualifiait donc, si on veut, parce qu'on dit qu'il est... donnons un nom à ce monstre, celui qui est Cratyle ou Héraclite, si on veut. Eh bien, il l'appelle... Je cherche mes papiers... Il l'appelle un paranoïaque autiste. Et je crois que les deux mots sont très bien choisis. Je parle de celui qui aurait peut-être la tête occupée par une philosophie de ce genre. Un paranoïaque autiste, pourquoi? Bon, qu'est-ce que c'est que la paranoïa? La paranoïa, c'est un délire systématisé. Bon, c'est ce que dit le dictionnaire. Mais attention, le paranoïaque, il n'est pas fou. Il vit comme vous et moi, on en rencontre partout. Donc, mais par contre, c'est un délire systématisé, donc avec conservation de la clarté de la pensée. La paranoïa, c'est un délire d'interprétation. Et puis, alors l'autisme, vous savez ce que c'est aussi peut-être, c'est un repliement sur soi-même. C'est-à-dire que c'est une pensée, l'autisme, si vous voulez, les autistes, ils parlent tout seuls, ils parlent pour eux-mêmes. Et même, ils parlent à la troisième personne, ils se dédoublent. C'est une pensée, l'autisme, détachée de la réalité extérieure. En conséquence, on peut peut-être, je crois... qualifier ce monstre qu'est donc la philosophie finalement sceptique ou évolutionniste, si on veut, celle d'Héraclite, de Cratyle et tous les autres, eh bien de paranoïa autiste. C'est un délire d'interprétation repliée sur elle-même. Avec ces gens-là, c'est difficile de communiquer. Voilà, si vous voulez. Alors, ça, évidemment, Saint-Pie n'a pas dit explicitement, mais il a affirmé, hein, donc je n'ai fait que reprendre ces termes, il a affirmé, donc, du modernisme qu'il était capable de tenir des positions contradictoires. Ça, c'est la position d'Héraclite. C'est celle de l'évolutionniste. Donc, du sceptique, comme Cratyle. Et donc, on peut tout légitimer, on peut tout dire et n'importe quoi. Je crois donc que le modernisme, semble-t-il, n'est pas mort, mais ne sont pas encore arrivés au bout. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, il faut réexpliquer certains passages. Oui. Donc c'est dans son livre, hein, Mon ami Jean-Paul II. Il faut que je la retrouve dans mon. Est-ce que j'ai lu ça? Alors, Malinsky, donc, c'est page 252. Donc, c'est Malinsky, ça s'appelle, donc, en vente à la procure, tout ça. J'ai pas d'action, malheureusement, d'ailleurs, dans ces livres-là. Tous ces livres-là, on les trouve en vente. Donc, c'est le père Malinsky qui a écrit Mon ami Jean-Paul II, c'est page 252, dans laquelle, donc, il caractérise bien qui est le pape. Bon, et on voit, en particulier, le rôle important, je l'avais déjà mentionné, du théâtre, hein. Comme le faire passer un flux, un vécu, quoi, faire sentir un vécu, c'est très important. Le geste théâtral. Très bien. Ah, de Edelstein, enfin de sœur Bénigne de la Croix. Donc d'abord, les béatifications ne sont pas invalides, ne sont pas infaillibles, elles n'engagent pas l'infaillibilité du pape. D'opinion commune, seule la canonisation engage l'infaillibilité du pape. Mais Mgr Lefebvre disait lui-même, je ne peux pas croire à une canonisation de Jean-Paul II, parce que une canonisation, ça serait dire cet homme-là est un saint, c'est une affirmation qui est infaillible, qui vaut pour tous les temps. Or, la philosophie du pape est impossible, empêche une infaillibilité, puisqu'elle est évolutionniste. C'est pourquoi Mgr Lefebvre disait, c'est pas des canonisations, quoi. Oui, mais il disait, alors ça n'empêche pas que les hommes soient saints, attention. Ça n'empêche pas, effectivement, que Maximien Kolb, par exemple, soit saint, c'est tout à fait probable, enfin, je le dis dans le bon sens, quoi, puisqu'effectivement, il est mort dans sa vie par charité. Mais c'est différent des actes que le pape prononce pour ses canonisations. Bon, ce qui n'empêche pas non plus que peut-être sœur Bénigne de la Croix soit béatifiée actuellement, donc soit au ciel. Ce sont plutôt, si vous voulez, donc c'est dans les actes eux-mêmes du pape qu'on a du mal à discerner, enfin à voir si vraiment il affirme une vérité qui sera valable pour tous les temps. C'est toute la difficulté, quoi. Les discours qu'il tient, donc par exemple lorsqu'il a canonisé les martyrs d'Avrier, sont assez surprenants. Puisqu'il était martyr finalement au nom de liberté religieuse. C'est pas tout à fait le cas, quoi. Non, il n'a jamais usé de son infaillibilité. Hein. On ne la remet pas en cause. Il ne l'a jamais utilisé. On ne la remet pas en cause. Non, s'il la mettait en cause, il devrait donc l'employer, les formules que les papes ont employées. C'est nous qui la mettons en cause. Ah non, on ne met même pas en cause l'infaillibilité du pape. Il faudrait qu'il en fasse usage. Il n'en a encore jamais fait usage. C'est tout. Mais justement, il ne pourra pas en faire usage. Ben, ça va contre sa propre philosophie, quoi. Il ne peut pas déclarer quelque chose vrai pour tous les siècles, puisque tout bouge. Alors passons.